Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, il y a quelques Nazériens qui sont partis, voilà, et puis qui sont remplacés par des amis qui, voilà, sont dans la région. Alors, nous vous accueillons et nous vous souhaitons la bienvenue. Voilà, eh bien, nous allons prendre un texte ce matin, qui est tout à fait dans les circonstances de ce moment de Pâques. Dans Matthieu, je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 27. Voilà, c'est un texte qui est repris par également l'évangéliste Marc, également par Luc et par Jean. Alors voilà, nous avons l'histoire d'un homme, il s'appelle Pilate. Est-ce que vous connaissez Pilate? Vous en avez entendu parler? Vous savez qu'à travers tous les temps, son nom a été exécré, un petit peu au même titre que Judas, parce que il a joué un rôle qui n'était certainement pas des meilleurs. Alors on va découvrir ça ensemble. Alors, Matthieu 27, verset 11, « Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate lui leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que ce tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Cela vous regarde, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Voilà, c'est une histoire que beaucoup connaissent, que la plupart connaissent, dans notre culture chrétienne. Et il est intéressant que nous nous posions cette question sur, en effet, l'attitude de Pilate par rapport à Jésus. Et je voudrais vous conduire dans une réflexion ce matin sur la vérité et la justice. Parce que ça peut être intéressant de prendre en compte, eh bien, ce déni de justice dont nous sommes finalement les témoins encore à travers ce texte. Assurément, la Bible est quand même un livre étrange, parce que nous y rencontrons un Pierre qui renie, un Judas qui trahit, et puis nous voyons finalement la lâcheté, ou plutôt au pluriel, les lâchetés de Pilate. Qu'est-ce que l'on peut retenir de Pilate? C'est que l'histoire, eh bien, nous témoigne que c'était un homme violent, parvenu à cette haute position de procureur de l'Empire de Rome, un homme vénal. C'était aussi un mondain et un opportuniste. Voilà, c'est l'histoire qui le rapporte. Hein. C'est pas finalement, des spéculations. Et c'était un homme, et vous le verrez, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans son comportement vis-à-vis de Jésus. C'est un homme qui est disposé à faire la justice. On va le découvrir, à condition que ses intérêts n'en souffrent pas. Alors, je ne sais pas si l'on peut ajouter quelque chose de plus, mais sans rien ajouter, on va le découvrir. Vous avez remarqué avec moi que nous avons commencé notre lecture à travers cette affirmation. Il nous est dit que Jésus comparut devant le gouverneur. Voilà, tout simplement, ça débute ainsi. Pilate, dans ses éminentes fonctions de magistrat, va devoir juger un accusé hors du commun. Jamais il n'en a vu un comme ça, parce que c'est quand même assez étonnant qu'on livre quelqu'un qui n'a fait que le bien. Mais, j'ajoute, le bien parfait, le bien de Dieu. Et il lui est donné à Pilate, permettez-moi le mot, il n'est pas trop fort, l'insigne privilège de connaître la vérité. Un juge, ça connaît la vérité, c'est normal. Il l'a acquise. On lui a appris ce que c'est que la vérité. Et il va connaître la vérité, figurez-vous, de la bouche même de celui qui a dit « Je suis la vérité ». Alors, c'est une confrontation avec laquelle nous sommes. Et remarquez qu'à Jésus, on refusera tout simplement l'élémentaire loi des hommes. Parce que on a dit tout à l'heure que c'était un déni de justice. On lui refusera simplement la justice dans la vérité. Et vous savez avec moi qu'il ne peut pas y avoir de justice si la vérité n'est pas établie. Parce que ça va ensemble. D'ailleurs, dans certains tribunaux, on demande au prévenu, ou tout simplement au témoin, de dire et de jurer, de dire toute la vérité, pour qu'on puisse établir finalement la justice. Ça, vous le savez. Connaître la vérité, figurez-vous, pour un juge, ce n'est pas une gageure. Mais on dirait que, on pourrait dire que c'est la première des nécessités, parce qu'il est là pour cela. Il a été mis en fonction pour cela, pour déterminer la vérité et rendre la justice. Mais Pilate, on va le voir au fur et à mesure que le procès va se dérouler, le procurateur romain la méprisera comme si elle n'avait jamais existé, la vérité. Et ça, c'est quand même assez étonnant. L'interrogation commence de cette manière. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus a été livré, puis il est accusé de visée subversive. Et c'est vrai, de l'accuser de dire qu'il est le roi des Juifs, alors ça le mettait forcément, Jésus, en concurrence avec l'empereur de Rome. Comment se fait-il que dans l'Empire, il y a un autre roi ? Fut-il le roi des Juifs ? Petite province oubliée dans ce grand empire, mais néanmoins roi quand même. Alors, automatiquement, nous arrivons sur un terrain politique à ce moment-là. Et il va lui poser la question, mais es-tu le roi des Juifs ? Alors on va chercher un prétexte. Et ce prétexte, il n'est pas très ancien. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem alors que le monde entier, pas le monde de Jérusalem, le monde d'Israël, est en train de l'acclamer et de proclamer que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors imaginez-vous que l'occupation ou l'occupant romain n'avait pas trop l'habitude de ce genre de choses. Il faisait plutôt la chasse à tous les détracteurs et tous les opposants. Mais là, il semblerait qu'à ce moment-là, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est le résultat, c'est en quelque sorte le triomphe non dit de toutes ces prédications extraordinaires, de ces miracles, de ces résurrections des morts, de toutes ces prodiges. Alors le peuple est dans l'enthousiasme, il est dans l'exaltation. Alors on s'aperçoit que c'est quand même inquiétant ce qui se passe. Et c'est ce qui fera dire à Pilate, mais est-ce que tu es le roi de ces gens-là ? Est-ce que tu es le roi des Juifs ? Alors le prétexte est tout trouvé. Les seules paroles en réponse de Jésus seront celles-ci. Et il ne dira pas d'autre chose. Tu me poses la question si je suis le roi des Juifs ? Tu le dis. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Et ça, ça va mettre quelque part un petit peu le feu. Parce que l'attitude de Jésus est véritablement assez troublante. En d'autres termes, Jésus voulait dire à Pilate, mais ta question, Pilate, en d'autres termes, eh bien, ne serait-ce pas quelque part une confession, puisque c'est toi qui le dis? Et crois-tu vraiment que je sois le roi des Juifs? Toi l'étranger, toi l'occupant, toi le magistrat suprême dans cette cour. On dit parfois des choses que l'on sait pertinemment à l'intérieur de nous-mêmes, soit pour les croire davantage parce qu'on a besoin de renforcer nos convictions ou notre assurance, ou soit parce qu'on n'y croit pas du tout. Alors à ce moment-là, c'est une dérision. Tu le dis, normalement pour nous aujourd'hui devrait suffire à tout homme sincère et droit. C'est pas la peine d'en dire plus. Mais visiblement, ce n'était pas suffisant à ce moment-là. On retrouvera la même attitude d'incrédulité chez les Juifs, tel que l'exemple nous est donné dans l'évangile de Jean, et je lis tout simplement cette citation, et au verset 24 et 25, où il est dit simplement ceci. Les Juifs entourèrent Jésus et lui dirent, jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Mais Jésus, peut-être ne l'a pas dit avec des mots, mais il en a fait la démonstration avec de la puissance et des miracles et des prodiges. Et ça vaut beaucoup plus que toutes les paroles des hommes. Parce que vous savez, quelle légèreté peut-il y avoir dans les paroles des hommes? Mais par contre, les faits, eh bien, ils sont probants. Et on ne discute pas sur les faits. Jésus leur répondit, là il va répondre, je vous le dis, et je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas en moi. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Ça devait être suffisant, hein. 3 années de prédication, 3 années d'un message merveilleux, d'un message d'amour et accompagné avec des actes extraordinaires, bah, c'était la preuve. Qu'est-ce qu'on allait chercher de plus? Alors Jésus garde le silence devant ses accusateurs et il garde le silence devant Pilate, qui pouvait être finalement son éventuel défenseur en la matière. Mais Jésus n'en fera rien, parce que Jésus n'a pas besoin d'un homme, aussi haut placé soit-il, pour se défendre. Vous connaissez l'histoire de Gethsémané. Ne pourrais-je pas demander 12 légions d'anges à mon Père qui viendraient me délivrer? On connaît ces textes de la Bible. Écoutez bien, Jésus ne lui répondit rien, et un peu plus loin, il nous est dit qu'il ne lui donna de réponse sur aucune parole. Les hommes aiment bien se défendre. Alors on prend des avocats, et quand on n'a pas d'avocat, on se défend soi-même. Et on y va, on se jette dans la bataille, et on essaie de trouver tous les arguments pour dire, eh bien, non, vous faites erreur, je dis la vérité. Quand les plus grandes questions, dont les réponses se trouvent naturellement dans la conscience des hommes, permettez-moi d'ajouter ceci, c'est que Dieu se tait. Ouais. Parce que Dieu a mis en nous quelque chose, que l'on appelle la conscience du bien et du mal. Alors, quand sur le plan le plus logique, le plus naturel, eh bien n'attendez pas et n'attendons pas que Dieu parle. Et Jésus se tait. Parce que ça aurait dû être évident pour tout le monde. Et c'est ce qui fait finalement que Jésus ne dit pas un mot. Alors Dieu se tait. La vérité ne se prouve pas. Elle s'offre. La vérité s'offre à chacun, soit elle s'accepte ou elle se refuse selon les inclinaisons du cœur de l'homme. On aime ou on n'aime pas la vérité. On aime ou on n'aime pas la justice. Et je crois que ça, c'est une leçon pour tous les temps. C'est ce qui fait le cœur même du message de l'Évangile et en particulier du sermon sur la montagne. Parce que Dieu a donné à l'intérieur de chacun, eh bien, ce qui nous permet d'exercer notre libre arbitre pour savoir ce que nous avons à faire. On a souvent, et la religion a souvent présenté, un Dieu qui rentre dans les affaires des hommes pour les pousser dans un sens ou dans un autre. Mais Dieu est plus grand que cela. En nous créant, il nous a donné, finalement, ce privilège et cette faculté de nous déterminer par nous-mêmes, en fonction des lumières qui sont les nôtres, en fonction de la position de notre cœur, pour ce qui est vrai ou ce qui est faux, pour ce qui est de la vérité ou de l'erreur. Et à chaque fois qu'un auditeur, comme nous le sommes ce matin, fait face à l'Évangile, eh bien, permettez-moi de dire, il est assis sur le siège de Pilate. Nous sommes assis sur le siège de Pilate. Alors, il appartient à chacun de répondre à cela. Et l'homme, à ce moment-là, a la capacité de juger de différentes façons. Soit il va juger avec sévérité, avec partialité, soit avec bienveillance, en écoutant favorablement. Soit il va prendre une attitude détachée ou indifférente, ou alors peut-être l'attitude méprisante, en disant « mais qu'est-ce que nous avons à faire de cela ? Pourquoi finalement rentrer dans toutes ces choses ?» Mais attention, et c'est peut-être justement tout le cœur même de cette réflexion ce matin, attention, écoutez bien ce qui suit, c'est que l'Évangile n'est pas fait pour être jugé, mais l'Évangile est fait pour nous juger, mais en raison d'une chose, à seule fin de nous sauver et pas de nous perdre. Comprenez la subtilité? L'Évangile est une bonne nouvelle. En grec, Évangile veut dire bonne nouvelle. Et s'il a été donné, ce n'est pas à nous de juger l'Évangile, parce qu'il est bien au-dessus des hommes. Mais il est là pour nous juger. Mais croyez bien que l'Évangile, c'est un Évangile de grâce. C'est pas un Évangile de condamnation. Ce n'est pas un Évangile de jugement et qui nous perd. C'est un Évangile qui nous offre la vie et qui nous permet finalement de nous approcher de Dieu. Et à ce moment-là, nous trouvons Dieu non pas sur notre chemin comme un juge, mais comme un sauveur. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Parce que vous connaissez très bien ces petites pensées qui émanent des paraboles de Jésus. Qui se laisse juger ne sera pas condamné. Qui veut s'excuser s'accuse lui-même. Puisque l'Évangile est avant tout un message, eh bien, de liberté et un message qui nous amène à nous placer devant Dieu pour qu'il nous fasse grâce. Le mot grâce, dans son explication, dans sa définition, c'est tout simplement faire grâce, faire miséricorde à celui qui mérite d'être puni. Dans les tribunaux humains, il y a aussi cet aspect des choses et je veux croire qu'il est agissant parce que le but, c'est finalement, eh bien, de gracier le coupable. Alors c'est difficile, hein, parce que dans le monde des hommes, c'est tellement compliqué tout cela. Mais bon, c'est pas notre sujet ce matin. Sans le savoir, en suivant notre histoire, Pilate était devant son propre salut et son propre jugement. Que va-t-il en faire? Toute la question est là. À ce titre, Jésus pourra dire à tous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset tout simplement 47, alors nous avons tout simplement, eh bien, cette parole, parce que c'est la parole de Jésus, elle est importante d'être citée, et au verset tout simplement 47, il est dit, « Mais si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au jugement dernier. » C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est que quelquefois on a mis tout sur Dieu, on l'a fait coupable. D'ailleurs, dans la circonstance, on l'a envoyé à la croix. Mais on l'a fait coupable. Mais quand on connaît le fond et la pensée profonde de l'Évangile, c'est pas pour nous juger et nous condamner, c'est pour nous sauver. Mais comment l'homme peut-il interpréter les choses? Et comment l'homme, à travers les siècles, au cœur même du christianisme, a déformé cette pensée de Dieu? Mais pour vouloir être sauvé, pour être sauvé, il faut le vouloir. Naturellement, il faut vouloir croire à cette parole. Ensuite, Pilate, aux Juifs rassemblés, va leur dire cette question. « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus ?» Et ça, c'est un choix crucial. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que en mettant les Juifs en demeure de choisir, Pilate, et c'est là toute son côté vénal de Pilate, il espérait peut-être que le bon sens, eh bien, à défaut de la conscience, l'emporterait sur la folie. la folie du moment, la haine qui existait à ce moment-là à Jérusalem. Et cette haine, pour faire condamner Jésus, n'était faite que de ces sous-produits abominables qu'est la jalousie, qu'est l'envie et qu'est le préjugé. Le préjugé, c'est terrible. Le préjugé religieux. Lui, ce juif, prédicateur, paysan de Galilée, mais qu'est-ce qu'il vient là parler dans le temple? Qu'est-ce qu'il vient à passer d'une synagogue à une autre pour apporter, eh bien là, des pensées étrangères, alors que ce n'était pas des pensées étrangères? Tout juif était pétri de cette annonce qu'un messie viendrait. Eh oui, comme quoi, quelquefois la culture ou la religion est plus forte que finalement la vérité de Dieu exprimée dans l'Évangile et dans la Bible. Alors, ça c'est un poison que la jalousie, l'envie, le préjugé, poison s'il en est, capable d'étouffer la voix de la raison. Parce qu'il y a dans tout homme une raison. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la raison la meilleure? Quelle est la raison la plus juste? Qu'est-ce que je vais faire? Alors quand on est injuste de fond, c'est vrai, toutes les raisons sont bonnes. Toutes les raisons sont bonnes, et on l'a vu dans l'histoire des hommes. Quand on veut se débarrasser d'ennemis, d'adversaires, d'opposants à un régime ou à une chose comme ça, mais on est prêt à recourir à n'importe quel faux témoignage, et de l'accuser de toutes sortes de maux, d'être finalement, eh bien là, comme on l'a fait pour l'apôtre Paul. Hein. Peste de l'humanité, disait-on de Paul, l'apôtre Paul, qui était un ancien juif, et un juif orthodoxe. Et après, quand il s'est converti au christianisme, on l'a appelé peste de l'humanité. Vous vous rendez compte? Heureusement qu'on a eu des Paul, des Pierre et des hommes comme ça, parce qu'on ne serait pas chrétien aujourd'hui. Hein. L'évangile n'aurait pas perduré depuis 21 siècles. Eh oui. Et qu'est-ce qu'ils ont souffert, ces hommes, naturellement. Alors, Pilate a donc demandé lequel. C'est important ce petit mot, lequel. Et ça, c'est une fatale erreur qu'il va commettre, qu'il n'aurait jamais dû commettre en tant que juge, et qui va le précipiter finalement dans son propre piège. En donnant le choix, Pilate ne pourra plus dès lors sauver Jésus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il ne pourra plus intervenir pour Jésus, parce que sa faute a été de placer Jésus au même niveau que Barabbas. Eh oui, il y avait un abîme entre les deux. Barabbas, Jésus. Et il va le mettre au même niveau publiquement devant tout le monde. Parce que Barabbas, c'est un criminel. C'est un criminel de sang. Il a fait tuer des soldats romains, parce que bon, il était probablement zélote. Et il a dû avoir des coups de main contre l'occupant pour finalement le sortir de la province de Palestine. Donc c'était aussi Barabbas, l'ennemi de Pilate. L'ennemi de l'Empire, l'ennemi de l'occupant. Mais Barabbas, c'est un criminel, c'est un brigand. Et permettez-moi de dire, si il était là où il en est, s'il avait été sorti de prison depuis peut-être à croupir depuis je ne sais pas combien de temps, c'est qu'il était le vrai coupable et personne ne se mépromet. Pilate savait très bien que c'était le coupable, qu'il y avait un coupable. Mais comme il y avait une tradition, faut se méfier des traditions. Hein. Méfions-nous des traditions. Parce que si elles sont bibliques et si elles sont évangéliques et si elles sont inspirées par la Bible, on dit amen. Mais quand elles sont imbriquées dans la politique, dans toutes sortes de choses, dans le religieux, faisons attention. Jésus n'est pas seulement accusé d'être un imposteur, puisque c'est la question de Pilate, es-tu le roi des Juifs? Donc c'est une imposture de se faire roi. Il n'est pas seulement un imposteur, mais il devient un malfaiteur à ce moment-là. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, les prophéties bibliques nous le disent. Il a été traité comme un malfaiteur. Dixit Esaïe, chapitre 53. On l'a traité comme un malfaiteur, comme le plus vil des malfaiteurs. Ce genre d'aveuglement déshonore la justice et jette la confusion entre le bien et le mal, sans pouvoir les différencier à un moment ou à un autre. C'est peut-être un petit peu l'état de notre monde aujourd'hui, un monde qui se déchristianise, un monde qui a perdu le sens de la morale, qui n'a plus de repères. On ne sait plus tellement ce qui est bien, ce qui est mal. Et assurément, c'est très compliqué de vivre dans notre monde. Mais rassurez-vous, du temps de Pilate, de Jésus, c'était la même chose. Dans l'événement qui nous occupe, il y a eu pourtant un incident providentiel. Je l'appelle providentiel parce que il n'y a pas de hasard pour les hommes qui croient en Dieu. Écoutez bien, et je reprends ce simple passage. « Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Qui était Madame Pilate? Qui était-elle, cette femme? Alors, on pourrait toujours discuter, mais je ne veux pas spéculer sur ce qu'elle était, mais toujours est-il qu'il semblerait qu'elle a vécu quelque chose d'assez étonnant, d'assez particulier, c'est que cet incident tend à prouver, surnaturellement, divinement parlant, eh bien là, l'innocence, tout simplement, de Jésus. Le mot juste est prononcé dans cette révélation, le mot juste, ce juste. Quand les hommes ne sont plus capables de déterminer pour ou contre, devant des faits patents et importants, il arrive que Dieu parle à ce moment-là. On a dit le contraire tout à l'heure. Mais là, que Dieu parle. Il n'a pas parlé à Pilate, il n'a pas parlé aux magistrats et à la foule. Dieu parle à la femme de Pilate, elle qui était en dehors de tout ça. Parce qu'elle ne vient pas au tribunal elle-même, elle fait dire à son mari. Une femme ne serait jamais rentrée dans le prétoire. C'était comme ça à l'époque. Mais toujours est-il que, je dis bien que Dieu parle, et il va faire une chose qu'il ne pouvait pas atteindre chez les autres, mais il va secouer la conscience d'une façon peu ordinaire de cette personne tiers. Et elle dira à son mari, ou elle fera dire à son mari plutôt, « J'ai beaucoup souffert en songe cette nuit. » Alors, que ou qui va-t-on écouter à ce moment-là? Quand on est trop sûr de soi, quand on est assis sur le tribunal et que on se dit procurateur de l'Empire et que finalement on n'a rien à apprendre des autres, qu'on sait déjà à l'avance ce que l'on va faire parce qu'on est dicté par d'autres motivations que la justice ou la vérité, ça c'est Pilate, hein, il est sûr, hein, aucun problème. Il n'a même pas besoin d'ouvrir le code civil romain pour savoir ce qu'il va faire. Il le sait déjà à l'avance. Mais il est quand même, il fait quand même preuve d'attentisme parce que ça peut tourner peut-être dans un sens ou dans un autre. Mais il attend la fin des choses. Alors, qui va-t-on écouter? Qu'est-ce que l'on va faire et quelle position nous allons prendre? Est-ce que nous allons avoir une position d'objectivité ou de subjectivité? Toute l'affaire est là. Pilate, et je le rappelle, a été averti. Le verset 18 nous dit ceci ainsi que le verset 19, je reprends simplement des parts de phrases, car il savait que c'était par envie que les Juifs, donc le mobile n'était pas là. Il savait qu'il y avait dans le cœur de ceux qui accusaient Jésus et surtout les autorités religieuses, qu'il y avait de l'envie et de la jalousie et du préjugé. Il savait que, ça devait suffire, verset 19, qu'il n'y ait entre toi et ce juste rien, dira la femme de Pilate. Lui fera dire qu'il n'y a rien, parce qu'attention, hein, là tu mets les pieds quelque part où c'est quand même assez glissant. Pour nous dire peut-être à la réflexion, à chacun d'entre nous, c'est que les plus claires mises en garde peuvent être contournées et détournées. Vous savez, on en fait ce que l'on veut de la vérité. Et je voudrais dire quand même quelque chose aussi, je ne voudrais pas choquer votre conscience, mais même en tant que chrétien, est-ce que nous sommes vraiment toujours vrais et toujours justes? Ah! Vous allez me dire, ne me crucifiez pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Non mais, on n'est que des hommes. Est-ce que nous aurions une supériorité aux autres hommes, aux incroyants? Non, nous sommes que des hommes. Par contre, ce qui pourrait faire la différence, c'est que nous connaissons cette parole. Nous suivons Jésus. Sa parole est l'autorité de notre foi et nous voulons vraiment nous y conformer. Non pas d'une manière légaliste, mais dans la pensée et la conduite du Saint-Esprit. Parce que ça nous illumine quand même. Hein. Ça donne une autre dimension à la compréhension de la Bible. Mais nous voulons être attendre à aimer la vérité, à aspirer à la vérité, à désirer la vérité, bien qu'elle soit quelquefois difficile pour chacun et chacune. Mais néanmoins, ça c'est notre désir. Ce qui fait dire que le chrétien est un être perfectible. Ouais, on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait. Entendons-le bien, parce que nous avons tous des leçons à prendre et à revenir. Alors donc, je dis bien que la vérité peut être contournée, détournée, sous la pression d'autrui. Ça peut être notre orgueil, notre fierté propre, ça peut être le péché, ça peut être sauver les apparences lorsque nous sommes mal pris. Tant de choses qui quelquefois, eh bien, nous polluent et dont nous avons du mal à nous extraire parce que pour être vraiment vraiment vrai, quelquefois il faut en souffrir. Ça fait souffrir de dire la vérité. Ça fait souffrir de vouloir vivre dans la justice. Il y a un prix à payer. Regardez Jésus, il a payé le prix fort, on l'a crucifié. Mais qu'un chrétien, il doit s'attendre aussi quelquefois à être moqué, à être dénigré, à être sali, à être rejeté, mal aimé. Croyez bien qu'on est passé par là aussi, hein, mais pas à la manière de Jésus. Hein. C'était un petit peu plus soft pour nous, un peu plus doux. Mais néanmoins, quand on voit l'histoire du christianisme et l'histoire de la réforme, l'histoire du protestantisme, l'histoire des Huguenots, simplement pour avoir une Bible et la lire dans sa maison et enseigner ses principes à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont payé pendant 2 siècles de persécution, de galères, torturés, exilés? Eh oui, ben la vérité, ça se paye. Et il faut être courageux. Pas à la manière de Pilate, mais à la manière de Jésus et de ceux qui ont été les disciples de Jésus hier. Et nous sommes aussi, nous le croyons, les disciples de Jésus d'aujourd'hui, nous et bien d'autres, naturellement. Être un lâche face à ses responsabilités. Vous savez que c'est une attitude qui est honnie dans le monde, un lâche, celui qui trahit, celui qui vend ses amis, celui qui donne pour sauver sa peau. Ouais. Être un lâche face à ses responsabilités, en d'autres termes, cette conscience, influençable qui crie, comme la femme de Pilate pouvait le susurrer aux oreilles de son mari, surtout, tu es sur le tribunal aujourd'hui, tu es sur ton siège pour juger, mais je te demande, Pilate, ne te mêle pas de cette affaire, ça ne te regarde pas. Eh bien, il y a des choses qui nous regardent pas et nous ne voulons pas nous en mêler, mais il y a des choses qui nous regardent. Et là, nous allons voir où nous nous situons. Où nous nous situons. Ça voulait dire également, Pilate, qu'est-ce que cela peut t'apporter? Ou qu'est-ce que cela va t'apportera, mais quel intérêt as-tu à te préoccuper de Jésus? Tu n'as rien à faire de Jésus. Toi, le Romain. Toi, l'occupant, toi, le dominateur, tu as la main mise sur ce peuple et tu peux en faire tout ce que tu veux. Alors, qu'il y ait un pauvre là qui apparaît, qui se dit prophète, hein, prophète de Dieu, qui annonce et qui rassemble des foules, mais tu vois bien qu'il est inoffensif, il a toujours fait du bien, il n'a pas fait de mal. Alors, mais qu'est-ce que cela va te rapporter? Mais qu'est-ce que tu as à faire? Même si cela est vrai, tu t'en occupes pas. Pourtant, mise en présence de Jésus, et ce qu'il incarne, la justice et la vérité, l'idée de Dieu, il faut bien trancher, il faut bien se décider et il faut bien prendre position. Mes amis qui partageaient ce culte ce matin, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient déjà pris position pour Jésus. Mais s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas pris position pour Jésus, faites-le maintenant. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de chapelle ou de clocher ou d'église, etc., etc. On ne parle pas de ça. Mais moi, je parle d'une position au regard de Jésus-Christ par rapport à vous personnellement. Qu'est-ce que vous faites de Jésus? Il faut se décider à un moment ou à un autre. Il faut prendre position. Parce que c'est tellement important. C'est essentiel. Moi, je ne suis pas pasteur d'une religion. Hein, et vous me connaissez. Je veux prêcher l'évangile pour faire connaître aux hommes, qu'il soit orthodoxe, juif, qu'il soit catholique, protestant, d'une manière ou d'une autre, je veux faire connaître le message de Jésus. Ça, c'est important. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, faire connaître Jésus, parce que, comme Jésus le répondra, et je le dis tout simplement pour le rappeler, mais comme Jésus le dira à la Samaritaine, elle, la Samaritaine, la païenne, quand elle lui posera la question, mais Jésus, où faut-il adorer? Est-ce que nous devons adorer à Jérusalem? Vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Nous, les Samaritains, nous adorons sur le mont Garizim. Cette religion qui était mélangée de toutes sortes de choses, religion païenne. Vous savez ce que Jésus répondra? Je lui dis, mais moi je te dis pas d'aller adorer à Jérusalem. Je ne te dis pas d'aller adorer sur le mont Garizim. Je te demande simplement d'être un adorateur de Dieu, parce que les vrais adorateurs, et Jésus prendra et mettra l'adjectif, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est marqué, hein. C'est pas l'étiquette d'une religion qui fait quelque chose. C'est la position de notre cœur, tout simplement. Position intérieure. Et ça, c'est essentiel. Alors, il faut se décider à un moment ou à un autre. Certains diront, je me décide pas parce que si je me décide pour Dieu, je vais perdre ma liberté. C'est faux. C'est faux. C'est peut-être là où vous allez voir la différence. Quand on est chrétien, eh bien, on vit comme tout le monde. On a une vie sociale, une vie conjugale, une vie familiale. On a des implications dans toutes les dimensions de cette vie. Mais nous sommes à ce moment-là des ambassadeurs d'un royaume. Et nous prêchons un roi de ce royaume, c'est Jésus. Et ça fait toute la différence parce que quand on s'aperçoit que lorsque nous avons donné notre vie, nous étions, en ce qui me concerne, un jeune homme, je peux dire qu'avant j'étais tenu et lié malheureux. Et à partir du moment où je me suis converti à Jésus, j'ai trouvé la vraie liberté. Vous me croyez pas, mais en tous les cas je le dis. Ouais. Et je veux le dire aux autres, parce que Dieu m'a appelé à le dire aux autres. C'est faux quand on dit je perdrai ma liberté. Au contraire, on gagne et on acquiert la liberté. C'est un véritable affranchissement. Alors, ne nous méprenons pas, finalement, sur cela. Alors, en défense, notre conscience avec Pilate s'exclame, que ferais-je donc de Jésus? Ah oui, vous me posez un problème. Voilà un homme qui a fait du bien. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Qu'est-ce que vous voulez? Et ça, c'est peut-être le problème de Pilate. Qu'est-ce que vous voulez? Mais dites donc, il était juge. C'est à lui de juger et pas de laisser le jugement aux autres. Que ferais-je donc de Jésus? Et ça, c'est un embarras. Il n'était pas préparé à cela, Pilate. Il s'attendait pas à cela. Christ, avoir Christ dans sa vie, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Nous avons laissé Christ rentrer dans notre vie et nous voulons qu'il soit non seulement le sauveur de nos âmes, mais le Seigneur de notre vie. C'est pour ça qu'un chrétien, eh bien, nous pouvons recourir à sa grâce tous les jours, à son conseil, et d'une manière très simple, ça s'appelle la prière. Ouais. Avec toutes les promesses que recèle la parole de Dieu pour appuyer nos demandes. Ouais. C'est ça être chrétien. Peut-être pas dans la gestuelle, peut-être pas dans une confession verbale, mais dans une manière d'être et de vivre. Tous les jours, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Alors donnez soif autour de vous parce que les gens sont malheureux. Les gens ont besoin de quelque chose. Alors qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Pourquoi croire? Pourquoi obéir? Pourquoi servir Dieu et s'engager pour lui? Eh bien, c'est précisément le sens que Dieu a donné à notre vie lorsqu'il nous a créés, à chacun et à chacune. Nous avons tous quelque chose à faire. Ouais, si nous le comprenons. Avec des fonctions différentes, avec des services différents, avec une mission différente. Et heureusement que c'est comme ça, parce que ça témoigne de la multiplicité, de la variété infinie de Dieu pour s'adresser aux hommes. Et ça, c'est extraordinaire. Le christianisme vu dans ce sens, c'est beau, c'est glorieux. Et c'est éternel. Alors il est impossible pour chacun d'esquiver la question, car à défaut d'entendre la voix de sa conscience ou de la laisser parler, nous serons tôt ou tard interpellés par les circonstances de notre vie. Alors on va en parler quelques instants. Notre vie, le but et le sens à donner à notre vie, pourquoi je vis ? D'où est-ce que je viens et où je vais? Mais ça, c'est très classique. Le but et le sens de notre vie. La grande question fondamentale de la mort. Si on est venu uniquement pour nous réjouir, boire et manger, c'est quand même assez, bien que ce soit des choses que nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir données. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est pas le but. Ce sont des moyens. Il faut pas confondre les moyens avec les buts. La souffrance, par exemple. Ouais. Est-ce que la souffrance est gratuite? Elle n'a pas de sens? Ou est-ce que la souffrance peut m'apporter quelque chose pour grandir? Pour peut-être découvrir Dieu, certainement. Pour peut-être davantage m'approcher des autres, pour les encourager, pour les consoler. Parce que là où je passe, eh bien, là où je suis passé, ils y passent aujourd'hui. Et j'ai peut-être un mot à leur donner. Et peut-être un témoignage d'amour, parce que, vous savez, quand on souffre, on a vraiment besoin d'une chose, c'est d'être aimé. Hein. La douleur, le mal, etc. Et vous avez remarqué, la femme de Pilate dit, « J'ai beaucoup souffert à cause de ce juste. » Elle a beaucoup souffert. Les circonstances de la vie parlent. Est-ce que nous voulons entendre les circonstances de la vie, de l'existence? Il y a des choses qui nous doublent. Hein. Il y a des choses qui se font dans notre dos, il y a des choses que nous n'avons pas attendues et qui finalement nous frappent et nous touchent de plein fouet et qui nous mettent par terre. Ouais. Mais Seigneur, quelle signification a donné à cela? Et cette femme a souffert beaucoup. Alors il y a trois possibilités. Je me révolte en disant, Seigneur, j'ai la preuve maintenant que tu n'existes pas. Ou alors, Seigneur, comme Adam, je fuis et je me cache avec des feuilles de figuier. Mais il nous trouve toujours. Hein. Où es-tu, Adam? Je me suis caché parce que je me suis aperçu que j'étais nu. Mais c'est pas une unité physique seulement, hein, une unité morale et spirituelle. Ou alors, à ce moment-là, je suis neutre. Ah, figurez-vous, la neutralité. La Suisse, formidable. C'est un beau pays, magnifique. Je suis neutre. Je ne prends parti ni pour un coup. J'espère qu'il n'y a pas de Suisse. Hein. Même des petits. La neutralité. Je ne me mouille pas. Jésus revient toujours. Ouais. Il reviendra toujours dans la conscience d'un homme. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Et pourquoi Jésus est mort? Et ceci et cela? Et puis ceci et cela? Quel débat et quelle dualité? Alors vous savez, il n'y a pas 36 solutions, on ne peut pas être neutre. Soit on va le faire roi et seigneur de notre vie, ou alors on va le crucifier. Vous savez ce que ça veut dire, crucifier? Hop. Tu disparaît. Je ne veux pas que tu viennes dans ma vie, c'est ma vie. Le verset 20 et 21, il nous est parlé de Barabbas. Et quand Pilate a dit, voulez-vous que je vous relâche, Barabbas? Vous m'aidez beaucoup. Hein. Et encore aujourd'hui, ça va. Hein. Le verset 22, tous répondirent, qu'il soit crucifié, pas Barabbas, mais Jésus. Verset 23, ils crièrent encore plus fort, sentant une hésitation chez Pilate, ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié, nous voulons qu'il soit crucifié. Tu le crucifies, parce que je voudrais quand même vous dire que la peine capitale sous l'Empire romain, il n'y avait que le magistrat romain qui pouvait le donner, pas les juifs, hein. Ils n'avaient pas le droit de mettre à mort. Donc il fallait bien passer par Pilate. Hein. Vous savez, je ne voudrais pas vous surprendre, mais le monde continue à demander la mort de Jésus. Hein. Oh. C'est terrible. Après 20 siècles de christianisme, quand on voit ce que les hommes sont capables de faire sur cette terre, au moment où je vous parle, nous sommes confrontés avec un océan de souffrance, de cris, de hurlements, de douleurs, quelque chose d'incommensurable. Ouais, on demande encore la mort de Jésus. Ah, le vieux Caïn, vous savez, du jardin d'Éden, hein, il continue à tuer Abel. Hein. Deux humanités. Le juste et l'injuste. Et tout ça souvent pour le pouvoir territorial, ou l'orgueil, la vanité et toutes sortes de choses. Seigneur, tu nous dis des choses étranges aujourd'hui, hein, mais c'est pourtant la vie d'aujourd'hui, c'est la vie de tous les jours, c'est à quoi nous sommes confrontés. Car lorsque nous avons un Jésus vivant dans à nous accompagner, nous sommes confrontés à sa présence, à son regard, à son autorité, à sa parole, à sa souveraineté. Et à partir du moment où nous croyons que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, eh bien, tout cela reprend vie. Et ce Jésus-là reste vivant et que de conséquences incontournables pour l'homme qui choisit Jésus, l'homme qui décide de faire les premiers pas avec Jésus. Et parmi les conséquences incontournables, il y a la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance ? Rien à voir avec la pénitence religieuse. C'est véritablement une souffrance d'avoir trahi, d'avoir renié, d'avoir été lâche, honteux de Dieu, d'avoir péché d'une manière ou d'une autre, à chacun sa manière, chacun son style, hein, naturellement, et ses modes. Mais de dire, eh bien Seigneur, maintenant je veux que tu me délivres de cette misère qui est la mienne. Et ça s'appelle la repentance. C'est pas vis-à-vis des hommes, c'est vis-à-vis de Dieu. Ça s'appelle la conversion aussi. Je choisis non pas une église, non pas un pasteur ou un prêtre, je choisis maintenant Jésus. Et c'est lui et lui seul. Ça s'appelle une nouvelle naissance, c'est-à-dire une vie nouvelle à l'intérieur de nous-mêmes, où nous sommes transformés, changés. Nous n'avons plus la même pensée, les mêmes mentalités. Dans le temps, j'avais envie de mentir, j'avais envie de me venger. Dans le temps, j'avais toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, c'est parti de mon cœur. Au lieu de répondre par le mal, j'ai envie de répondre par le bien. Donc ça, c'est un miracle. Et c'est pas nous hein, qui pouvons le faire. Il y a que Dieu. Il y a que la vie de Dieu, la vie de Jésus. Aussi, comme conséquence incontournable, il y a le pardon que nous devons donner à ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est dur. Quand je vois celui qui m'a fait du mal, ah, je le regarde, je change de trottoir, j'ai bien envie de passer sur le trottoir quand même pour le rejoindre et lui tourne le cou. Comprenez ? Ah, c'est pas les choses à faire. Hein. Parce que là, je vais aller au tribunal. Hein ? C'est cette libération de nos haines, de nos ressentiments, de nos préjugés vis-à-vis de quelqu'un. C'est vrai que nous pouvons souffrir. Il y a des gens qui nous ont fait beaucoup de mal à pleurer, qui nous ont abandonnés, qui nous ont trahis. Mais laissez faire Jésus. Il est en vous, laissez-le faire, il va régler les problèmes. Et quelle façon dont il a de régler les problèmes, c'est magistral et c'est divin, frères et sœurs. Et ça vous donne la paix après, peut-être dans le repos, à l'intérieur de vous-même. Tout cela n'est en rien le commencement des problèmes de suivre Jésus. Mais c'est la fin de notre misère morale et de notre médiocrité humaine. Mais alors, faire disparaître Jésus, c'est une chose. Mais à quel titre justifier un tel acte de lâcheté ? Parce que Pilate va dire le mot. Mais quel mal a-t-il fait ? Parce que quand on fait le mal, on est puni. Mais lui, il n'a pas fait de mal. Alors il se dit, mais quel mal vais-je pouvoir ? Quel chef d'inculpation puisqu'il n'a fait ? Je n'ai entendu de lui que du bien. Quel mal a-t-il fait ? Vous savez que le fait seul de savoir que Jésus existe, qu'il est vivant, ça dérange. Souvent, la religion ne dérange pas les gens. Mais l'évangile et Jésus-Christ, ça dérange. Si tous les hommes honnêtes et droits voulaient s'interroger sur la question de savoir, non, où est la vérité, mais plutôt cette question, qui est la vérité ? Et qui dit la vérité ? Ça changerait beaucoup de choses, hein. Depuis les temps immémoriaux, les hommes sont en train, philosophes, théologiens et tout cela, les uns et les autres sont en train de se poser la question, mais tout simplement, où est la vérité ? Mais c'est pas la question qu'il faut se poser, c'est mais qui est la vérité ? Comme Jésus nous le dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la vérité ? Mais on va le savoir tout de suite. Alors je dis que tout homme sincère ne tardera pas à découvrir la clé de l'énigme qui est posée par Pilate lui-même à Jésus dans un autre évangile, toujours l'évangile de la Passion, au chapitre 18, quand nous lisons ceci, et au verset 37 à 38, alors que Jésus se trouve, ça c'est le texte raconté par Jean, l'apôtre Jean, dans son évangile, Pilate dit à Jésus, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque, écoutez bien parce que ça c'est essentiel, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et vous savez ce qu'il répond Pilate ? Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité ? Ah, il n'avait rien compris, hein ? Il avait la vérité personnifiée en face de lui et il pose la question, mais qui est ? Il a besoin, Pilate, de savoir, mais la vérité, quiconque, écoute. Écoute ma voix, c'est ça la vérité. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Mais faut-il encore avoir le courage ? Faut-il avoir encore la volonté d'entreprendre cette recherche ? Comme cela nous est dit par Dieu, par Moïse. À la sortie des Hébreux dans le désert, d'Égypte, dans le désert, Dieu dira, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, je me laisserai trouver par toi. Un homme, une femme, jeune homme, jeune fille ou vieillard qui cherche résolument dans son cœur, eh bien Dieu va se laisser trouver par lui. Mais il faut poser la question, naturellement. Tant de faiblesses et de préjugés qui sont en cause, qui sont la cause première de notre indifférence coupable, à ne pas désirer en savoir davantage. Pilate n'en voulait pas davantage, il croyait tout savoir, et c'est ça son problème. Alors quel mal a-t-il fait? C'est une question récurrente, mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour qu'on puisse le crucifier? Le verset 24 nous dit ceci, et je vais bientôt terminer. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Ah. Voyant qu'il ne gagnait rien. La justice serait-elle une affaire d'intérêt mesquin, de mercantilisme, voire même sordide? C'est terrible, hein? Et je crois que ça n'a pas changé, hein? Dans certains pays, quand on voit un petit peu ce que peut représenter la justice, waouh, ça vous donne le vertige. Pour Pilate, c'était trop de risques à sauver un étrange innocent. Oui, j'ai pris à dessein cette formulation, un étrange innocent. Parce que s'il y en avait un qui en était, un vrai, c'était lui. Et c'est étrange pour les hommes. Alors Pilate, à ce moment-là, il a pensé à sa réputation. Il a pensé à sa position, à son autorité de juge. Et il a préféré la lâcheté et la facilité à la vérité. Dis donc, tu nous donnes des sacrées leçons aujourd'hui, hein, Pilate, hein? Waouh! Quelque chose! De fait, il a pris de l'eau et il s'est lavé les mains. C'est passé dans l'image et dans le... C'est passé proverbial, hein. Je m'en lave les mains. Eh ben, ça vient de là. Ouais, vous penserez à Pilate quand vous irez au lavabo. Enfin, pas à chaque fois, parce que là, si... non. Mais, en tous les cas, vous penserez à Pilate. Je m'en lave les mains, tout simplement. Mais, j'ai pas répondu à une question, vous l'avez pas posée, mais je... Au juste, qu'est-ce que c'est que la lâcheté? Qu'est-ce que c'est que la lâcheté? Alors, je prends la définition, hein, du dictionnaire. J'ai regardé quand même. La lâcheté se définit ainsi. Elle est un défaut notoire de courage. C'est un refus d'agir en connaissance de cause dans le bon sens ou dans un bon sens juste et nécessaire. C'est l'absence d'énergie morale, de dignité et de loyauté. D'accord? C'est ça, la lâcheté. Et il y a bien d'autres choses qui pourraient être dites sur la lâcheté, mais j'ai fait un concentré. Trop facile de décliner ces responsabilités que seule notre conscience impose, même quand nous savons ce qui est juste. Je suis, dira Pilate, innocent du sang de, et il le dit, de ce juste. Donc il le reconnaît juste, et il n'en fait rien. Il n'en fait rien. Le péché de Pilate était de ne pas agir en connaissance de cause, et fait aggravant pour lui, il se décharge sur les autres quand il dit « cela vous regarde ». Et vous savez, depuis que le monde est monde, même les tout-petits, vous savez les petits bonhommes là, petites têtes de jambes et qui courent dans tous les sens, les enfants, quand il y a une bêtise qui est faite, c'est pas moi, c'est l'autre. Bon. Et les grands enfants, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est Dieu. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas évolué. L'humanité n'a pas grandi. Elle reste toujours de dire, non, non, moi, pas de problème, c'est l'autre. On accuse la société, on accuse les pouvoirs publics, on accuse qui? Mais ça, c'est comme ça. Eh bien, regardez. On le voit. Ah, c'est une forme bizarre de l'être humain, hein. Mais c'est une erreur chez Pilate et c'est une erreur chez tous les hommes. Parce que cela me regarde, parce que c'est ainsi, c'est aussi pour moi que Jésus a été crucifié. Et on revient à l'essentiel de l'évangile. C'est pour moi que Jésus a été crucifié. Enfin, selon les apparences, le mal semble triompher à ce moment-là, juste après Gethsémané, juste avant la croix. Les Juifs diront, ils ont obtenu satisfaction parce que Pilate, lui qui avait l'autorité, qui pouvait faire dans un sens ou dans un autre, qui pouvait choisir le bien, les Juifs étaient très contents parce qu'ils ont fait fléchir le magistrat impérial. Et à ce moment-là, ils diront, mais que son sang retombe sur nous, sur la tête de nos enfants. Cette imprécation, combien cette imprécation a été lourde à porter pour les Juifs depuis 2000 ans. En l'an 70, le général Titus a investi la Palestine et notamment Jérusalem, et selon une prophétie, je crois, de Zacharie, il est dit, il ne restera pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem sera passé sous le socle de la charrue. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour le peuple hébreu. La diaspora pendant 2000 ans. Il faut attendre 1948 pour la reconstitution de l'État d'Israël. Ça s'est passé. Quelle cohérence dans la parole de Dieu. Mais c'est eux qui l'ont demandé. C'est pas pour ça qu'il faut leur en vouloir, hein. C'est pas pour ça qu'il faut être antisémite. Mais les choses se sont accomplies pour que Jésus meure, pour les uns et les autres, pour que notre salut soit réalisé. Tout simplement. Ça nous dépasse. Mais c'est pourtant une réalité. Il n'en demeure pas moins vrai que chaque homme inscrit son devenir présent et éternel en fonction de Jésus. Que vais-je faire de Jésus? En conscience, face à la vérité de Christ et de ses choix de l'accepter ou de le refuser. Et le refuser, cette dernière position, équivaut à le livrer à la crucifixion, tout simplement. Et de concert avec la foule vociférante de Jérusalem à ce moment-là, de Golgotha, crier qu'il soit crucifié. Et il y a cet écho parabolique que Jésus donnera dans une petite image, quand il parlera d'un roi qui va se faire investir dans un autre royaume, mais qui revient parce qu'il a reçu l'autorité royale. Alors à ce moment-là, ses sujets viendront à sa rencontre et lui diront « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et moi, je dis que le monde dans lequel nous vivons, nous ne voulons pas que les hommes ne veulent pas que Christ règne sur eux. Autrement, le monde serait changé, hein, je peux vous le dire. Les principes de l'évangile, les principes du sermon sur la montagne, le monde serait transfiguré. Alors on dit, c'est anormal tout ce qui se passe. Mais si on avait voulu voir la normalité, on vivrait dans un autre monde. Hein. Conclusion. Celui qu'ils ont lâchement abandonné, qu'ils ont tué, est ressuscité. Et c'est ça justement ce qui a troublé, ce qui continue à troubler le monde. Il est ressuscité parce que Jésus est là. Et vous avez vu le dernier verset ? Pilate relâcha Barnabas et il leur livra Jésus pour être crucifié. Je dis que c'est la tragédie de l'inintelligence morale et spirituelle. Je ne veux pas être sévère, mais c'est terrible quand même de ne pas avoir compris le sens et la finalité de la création de Dieu. C'est un aveuglement collectif par absence d'amour de la vérité. Je terminerai par une dernière question. On n'en a pas trop parlé, on a parlé de Jésus, on a parlé de Pilate, mais moi je voudrais vous parler de Barabbas. Mais simplement, hein. Qu'en est-il finalement de chacun de nous? Qu'en est-il de Barabbas dans cette affaire? A-t-il compris comment et pourquoi il a été si facilement gracié? Je dis bien si facilement gracié. Lui, il pensait souffrir 1000 morts. Il savait qu'en sortant de prison, c'était fini pour lui. Hein. Et il s'est retrouvé là dans la rue en lui disant maintenant, mon brave Barnabas, tu vas aller te laver les mains toi aussi, hein, parce que tu as du sang dessus. Hein. Ah, tu as quand même quelques crimes et quelques mortes. Mais après, une fois que tu seras lavé les mains, tu seras comme tout le monde. Pas de problème, personne ne t'inquiétera. Tu peux recommencer à tuer des Romains. Tu peux commencer à faire des coups de main, il n'y a pas de problème. Mais tu es libre maintenant. Alors est-ce qu'il a compris comment ça s'est fait pour lui? Du jour au lendemain? Ah, c'était miraculeux, hein? C'était miraculeux. Est-ce qu'il a de loin ou de près assisté au supplice de celui qui avait pris sa place? C'est bizarre. Pourtant, il était juste, lui. Moi, j'étais un condamné à mort. Et c'est lui qui meurt à ma place. C'est curieux tout cela, hein? C'est la même question que nous pouvons nous poser les uns et les autres. Et si Jésus était mort pour vous personnellement? Et moi, je veux transformer la question. Jésus est mort personnellement pour vous. C'est ça, Pâques. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. La vérité de la passion de Pâques n'est que celle-ci, c'est que chaque homme est un Barabbas, dont le prix de la vie, de la liberté et de son salut a été payé par un véritable innocent, tout simplement. Que ferez-vous aujourd'hui de Jésus? Vous avez peut-être entendu une parole assez étrange aujourd'hui, mais si je prêche le récit évangélique de Pâques, je ne peux pas dire autre chose. Non, je ne peux pas vous dire autre chose. Parce que l'interpellation pour tous les hommes, il y a 10 millions de gens qui sont chrétiens, mais où est véritablement le sens de Pâques? Alors les œufs, tout ça, le gigot, c'est très bien, je ne vois pas d'inconvénient. Mais le sens profond, c'est ça Pâques. Alors mes amis qui nous rejoignaient, les amis qui viennent, qui sont là, eh bien moi je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse. Oui, parce qu'il vous a déjà béni en vous donnant Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore, et que vous soyez sauvés en croyant en Jésus. Que Dieu maintenant nous conduise, et nous allons prier quelques instants simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as conduits, Seigneur, à réfléchir sur cette chose exceptionnelle, unique. Cette chose, Seigneur, cet événement, cet incident, en effet, qui était en effet l'avant et l'après de l'histoire des hommes. Eh bien, Seigneur, je te demande de te révéler, de te manifester, parce que les paroles d'un homme sont bien faibles pour persuader et convaincre. Mais moi, je te demande que ton Saint-Esprit, qui est présent au milieu de nous, eh bien, conduise chacun et chacune, les amis, Seigneur, peut-être que pour la première fois entendre, eh bien, le message de l'Évangile exposé de cette manière, eh bien, qu'ils puissent réfléchir et dire, mais je sais que Jésus est mort pour moi et je le crois parce qu'on est sauvé par la foi. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.